Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. C'est important que Guterres, le secrétaire général de l'ONU, se félicite de l'accord qui a été conclu au sujet de la Libye pour la fin de la présence des mercenaires ainsi que des combattants étrangers et des troupes étrangères sur le territoire national libyen. C'est important qu'il le fasse parce qu'il y a eu ce retour de 520 mercenaires syriens qui ont quitté la Libye pour rentrer chez eux, donc en Syrie. Et le fait que ce soit acté par la plus haute autorité onusienne dit l'importance que cela représente pour l'ONU qui va aider à l'organisation du scrutin électoral du 24 décembre. D'ailleurs, on peut quasiment dire que nous sommes à 90 jours de ce premier grand rendez-vous électoral présidentiel. Donc, on est aujourd'hui en Libye en train de s'organiser pour que ce scrutin puisse s'organiser dans les meilleures conditions possibles. Et puis également en Libye, on peut signaler ces inquiétudes d'organisation humanitaire, puisqu'on en avait déjà parlé, il y a cette politique de travail à l'égard des migrants, les clandestins, les non-clandestins. Pour ce qui est des clandestins, les autorités actuellement procèdent à des regroupements dans des centres de détention. Ce ne sont pas des centres de prison, mais des centres de regroupement à partir desquels les migrants sont ensuite raccompagnés jusqu'à leur pays d'origine. Il y a aujourd'hui des rapports qui sont produits par des organisations humanitaires qui s'interrogent sur les conditions de vie qu'il y a à l'intérieur de ces centres de détention. Ces affaires judiciaires en Algérie avec cet ancien ministre de la Justice qui vient d'être condamné à 6 ans de prison, Taïb Lou se voit ainsi condamné pour abus de fonction, incitation à la falsification de documents officiels dans cette affaire. Saïd Bouteflika, le frère du défunt président, lui est condamné à 2 ans de prison. Il est également co-accusé avec plusieurs autres hauts fonctionnaires d'avoir participé à cette opération d'annulation d'un mandat d'arrêt international qui avait été émis à l'encontre d'un ancien ministre de l'énergie, Shakib Khalil, qui est actuellement en fuite à l'étranger. En tout cas, les sentences qui ont été prononcées par le tribunal d'Alger sont tout à fait conséquentes à l'égard de personnalités qui sont représentatives, qui ont été représentatives de l'ère Bouteflika. À ce sujet, Saïd Bouteflika a apporté quelques précisions devant le juge. Il a dit, et là je le cite, avoir été menacé par le juge d'instruction de la cour militaire de Blida, le colonel Amalou, qui a fait de moi, dit Bouteflika, un accusé sur la base d'une fausse enquête. Fin de citation. Un rendez-vous à noter sur nos tablettes, ce sera cette visite du président algérien Tebboune qui va se rendre en Tunisie. Ce sera une première depuis la nomination d'une femme première ministre ainsi que d'une équipe gouvernementale. Donc à prévoir la visite du président algérien en Tunisie, ce devrait être au cours des prochaines semaines. La Mauritanie, plus précisément l'économie mauritanienne, le FMI, le Fonds monétaire international, a priori devrait soutenir prochainement la Mauritanie avec un programme d'appui financier. C'est un programme qui pourra se décliner sur les prochaines années. Il y a déjà eu un déboursement de 280 millions de dollars entre 2020 et 2021, de l'argent qui avait aidé le pays à lutter contre la pandémie de coronavirus. Donc voilà, la Mauritanie devrait a priori être de nouveau soutenue par le FMI. Irak, pour l'instant, pas de soubresaut, pas de tension sécuritaire, même si les milices pro-iraniennes qui se présentaient à la législative ce week-end sous la bannière Al-Fatah ont contesté le résultat des urnes qui consacrent la victoire du bloc Sadr. Et bien malgré cela, malgré cette contestation des résultats, pour l'instant, il n'y a pas de tension sur le terrain. Les tractations politiques vont ainsi pouvoir commencer pour nommer un premier ministre. Ce sera compliqué. A priori, ce devrait être un homme issu de la majorité de Sadr, mais pour ce qui est de la constitution irakienne, rien n'est précisé à cet effet. Donc a priori, c'est quelqu'un de la majorité, mais on en est n'est pas complètement sûr. En fait, tout va dépendre des alliances qui seront décidées, sachant qu'il y a ces nouvelles têtes qui viennent de rentrer, ces jeunes qui sont issus des mouvements de contestation populaire des années 2019 et 2020. Est-ce que ceux-ci pourraient accéder à des ministères régaliens? On en saura plus lorsqu'il y aura eu le partage des portefeuilles. Mais en tout cas, pour l'instant, la situation en Irak est plutôt calme. Et puis cette déclaration absolument sidérante du vice-président iranien qui avertit Israël, si jamais une erreur est commise, c'est le mot qui a été utilisé, si Israël fait une erreur, eh bien des mesures seront prises à l'encontre des juifs iraniens, parce qu'ils sont environ 10 000 à résider toujours en Iran, c'est leur pays de naissance, c'est là où ils ont toujours vécu. Eh bien malgré cela, le vice-président iranien les menace si jamais la politique conduite par Tel Aviv ne convient pas aux autorités actuelles de Téhéran. Une décision tout à fait sidérante et très rare dans la vie souvent veloutée des relations diplomatiques où chacun fait attention à ce qu'il dit, aux tournures d'esprit, à la façon dont tout est présenté. Mais là, décidément, le vice-président iranien fait quasiment un objet de chantage avec une population juive qui n'y est absolument pour rien dans les décisions qui peuvent être prises par Israël. Mais il pourrait malgré tout en être les victimes, espérant que ces propos ne seront jamais suivis d'effet. Asie majeure, mineure, dièse ou bémol, Asie. Nous allons en Afghanistan avec ces discussions qui ont eu lieu, des discussions directes entre les Américains, les Européens et puis les Talibans. Des discussions productives, ont dit les Américains. C'est vrai que des décisions tout à fait significatives ont été prises en vue d'aider l'Afghanistan à ne pas tomber dans une crise humanitaire qui serait absolument désastreuse, parce que les caisses de l'État afghan sont vides, les caisses de l'Émirat islamique d'Afghanistan sont absolument vides. Il n'y a plus d'argent puisque avant que les Américains s'en aillent, quasiment la totalité de l'enveloppe budgétaire des autorités de Kaboul était versée par les États-Unis. Il se passe la chose suivante aujourd'hui, c'est que l'État afghan, qui était là avant les talibans, disposait d'avoirs financiers qui sont aujourd'hui dans des banques américaines. Or, les autorités de Washington ont décidé, compte tenu du départ et des conditions dans lesquelles ils sont partis, ils ont décidé de bloquer ces avoirs financiers qui appartiennent aux talibans. Donc la question, c'est aussi de savoir quand les Américains vont-ils obtenir le déblocage de ces fonds, quand l'argent va-t-il rentrer à Kaboul. Et là, on se doute bien qu'il y a une négociation et que les Américains disposent là d'un véritable levier dans la discussion qu'il peut y avoir avec les talibans. Qu'est-ce qu'ils vont demander en échange d'une libération de ces fonds? Est-ce qu'ils vont demander un gouvernement qui soit plus inclusif, un gouvernement avec des femmes? Est-ce qu'ils vont réclamer qu'il y ait un respect des droits humains qui soit plus clair? Parce que c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, on a du mal à ressentir exactement ce qui se passe en Afghanistan parce que la musique est toujours autorisée, oui, mais beaucoup de gens disent qu'ils n'osent pas écouter de la musique parce qu'ils ont peur. Les talibans disent qu'ils peuvent le faire parce qu'ils n'ont pas de raison d'avoir peur, mais les gens ne le font pas quand même parce qu'ils sont inquiets. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes peuvent aller étudier à l'université? Sur le papier, oui, même si il a été décidé qu'il y aurait dorénavant des salles pour les garçons et des salles pour les filles. Mais est-ce qu'elles peuvent y aller officiellement? Oui, mais pourtant, il y a des universités où les jeunes filles n'osent plus aller en cours parce qu'elles sont inquiètes. Donc voilà, il y a des points à clarifier, il y a des points sur lesquels on n'a pas encore les idées très claires. Comment peut s'organiser à l'avenir un dialogue d'égal à égal entre les talibans, les Américains et l'Europe? C'est une question qui se pose, parce que c'est vrai aussi que d'un autre côté, si les talibans considèrent uniquement les États-Unis et l'Europe comme étant une sorte de fonds monétaire international qui va piller ad vitam aeternam leurs errances gouvernementales, ça ne va pas marcher aussi du côté occidental. Donc voilà, c'est une relation qui aujourd'hui est en cours de construction, mais pour l'instant, en tout cas, disent les Américains, ces discussions sont productives, il faut l'acter. Donc voilà, c'était des discussions qui étaient productives entre les talibans et puis les États-Unis et les Européens. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.